BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission et puis vous retrouverez ensuite nos débatteurs, nos critiques, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux avec leur coup de cœur et leur coup de gueule et puis nos chroniqueurs, Benaouda Abdelhaïm et sa moisson d'études glanées dans le monde entier. Et aujourd'hui, c'est Marjorie Adelson qui sera notre bibliothécaire. On démarre tout de suite avec nos auteurs, sans avoir oublié de vous rappeler tous nos réseaux sociaux, hein. Instagram, Librairie de l'Écho, X pareil, Librairie de l'Écho, Facebook, LinkedIn, YouTube, Librairie de l'Écho. Si vous voulez tous les programmes, toute la référence de livres qu'on vous présente dans l'émission, des replays et plus encore, eh bien, c'est sur nos réseaux sociaux. Allez, tout de suite nos auteurs. L'abondance, c'est fini. Voilà l'une des principales leçons que l'on peut retenir des quatre folles années que le monde vient de vivre, avec le Covid d'abord et la guerre en Ukraine ensuite. Et donc, on va s'intéresser à deux des plus grands défis que l'Occident doit relever aujourd'hui, son approvisionnement en énergie et son approvisionnement en eau. Bonjour Antoine Armand.
Bonjour.
Vous êtes député Renaissance, rapporteur de la commission d'enquête sur la perte de souveraineté énergétique de la France et vous publiez Le mur énergétique français, c'est chez Stock. Simon Porcher, bonjour. Vous êtes professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas et vous publiez La fin de l'eau, point d'interrogation, chez Fayard. Antoine Armand, on commence avec vous, avec cette commission qui a soulever beaucoup de sujets, déboucher sur beaucoup de révélations autour donc de notre perte de souveraineté énergétique. Vous dites dans votre livre, il y a deux discours finalement, à travers toutes les auditions que vous avez faites, il y a deux discours qui ont traversé les 30 dernières années de notre politique énergétique. C'est un discours anti-nucléaire que je qualifierais presque de primaire, et deux, un discours de résignation industrielle.
Oui, absolument. Ce que je décris dans ce livre, c'est la somme de négligences, d'erreurs et même parfois de fautes qui ont été commises depuis 30 ans en matière énergétique. Et ça prend sa source dans quelque chose de très profond, qui est cette forme de résignation, cette idée que la France ne serait plus en mesure d'être un jour une grande nation industrielle et donc une force politique. Mais c'est précisément par ce discours de résignation industrielle qu'on s'est dit « on a un parc nucléaire formidable, ça nous suffira ». Les énergies renouvelables, nul besoin de les développer en complément ou alors uniquement pour les opposer au nucléaire. Et puis les matériaux critiques pour fabriquer les panneaux solaires ou pour fabriquer les éoliennes, les bras, les cerveaux pour faire demain des centrales nucléaires à nouveau, eh bien on les a laissés progressivement s'étioler, s'appauvrir, s'affaiblir jusqu'à ce fameux hiver 2022 où nous avons frôlé le blackout.
Alors, et sur la partie discours anti-nucléaire, est-ce qu'il y a vraiment là une spécificité française ?
Et il y a une spécificité française parce que le nucléaire est une spécificité française. Et qu'à l'aube des années 70, quand nos dirigeants ont pris la responsabilité à quelques-uns de lancer ce fameux plan Messmer, de construire en moins de 25 ans 50 réacteurs, ils nous ont permis d'avoir sur le plan électrique une très forte indépendance et une électricité très décarbonée. Et face à ça, c'est créé un mouvement d'écologie politique qui était d'abord anti-nucléaire, alors même que le nucléaire est une solution pour le climat. Pourquoi ? Parce que le nucléaire, vous le disiez de manière parfois primaire, a été associé au nucléaire militaire, a été associé à une industrie qui polluerait, ce qui n'est pas le cas, pour être décrédibilisé. Et ce discours, les écologistes peinent encore aujourd'hui à en sortir.
Alors, on va être cash, Antoine Armand. Si on refait le film des 30 ans de notre stratégie énergétique, quand on a lu votre livre, mais on se dit, est-ce qu'il était possible de faire pire que ce qu'on a fait ?
C'est une question passionnante parce que je ne l'ai pas écrit pour rappeler à quel point, même si c'est dans le livre, Ségolène Royal, Nicolas Hulot, Lionel Jospin et d'autres ont pris des décisions ou des positions qui paraissent aujourd'hui presque délirantes. Je l'ai écrit pour dire ce que vous disiez au tout début, c'est que les mêmes causes amèneront les mêmes effets. Si on continue à croire qu'on aura demain de l'abondance énergétique, si on continue à croire que l'industrie nucléaire ou énergie renouvelable, ça se fait en claquant des doigts, eh ben on aura les mêmes effets. On aura ce mur énergétique d'ici 2030-2035. Et donc, c'est bien toutes les forces nationales, à la fois les lycéens, vous savez, aujourd'hui, les gens qui vont construire les centrales nucléaires de demain, ils sont au collège, ils sont au lycée. Donc, il faut les former, il faut les attirer. Les filières industrielles en matière de solaire, de photovoltaïque, si on veut en avoir demain sur le sol européen, il faut les protéger d'une concurrence déloyale. Tout ça, c'est une sorte de cohésion nationale qu'il faut mettre au service de l'industrie. Sinon, effectivement, les mêmes causes entraîneront les mêmes effets, alors, au-delà des responsabilités individuelles.
Alors, je ne reviens pas sur les politiques. Hein. Vous écrivez dans votre livre que vous avez été littéralement stupéfait par l'inconscience, le cynisme de beaucoup de politiques qui ont fui leur responsabilité, mais vous avez raison, ne nous attardons pas là-dessus. Il y a quand même pas que ça. Il y a beaucoup d'autres acteurs qui, j'ai envie de dire, ont du sang sur les mains de l'effondrement de notre stratégie énergétique.
Bien sûr, c'est une collection d'acteurs et c'est aussi la capacité à un moment à faire confiance aux différents échelons. Je prends un exemple. On a beaucoup tapé sur l'Europe. On a beaucoup dit le cadre européen a défavorisé la France dans une certaine mesure. Ouais. C'est vrai dans une certaine mesure. Mais d'abord, ce sont les responsables français qui l'ont accepté. Et puis d'autre part, on était bien contents dans les années 2010 de pouvoir exporter l'électricité partout sur le continent européen. Donc il faut aussi qu'on prenne nos responsabilités et que collectivement, par exemple au niveau européen, on pousse pour le financement de toutes les technologies décarbonées. Et puis aussi, et ça je le dis en toute clarté, j'allais dire. Il faut qu'on soit extrêmement exigeant avec nos opérateurs industriels. Ce qui s'est passé à Flamanville ne peut plus se reproduire.
Et comment vous expliquez cette... on est quand même passé d'EDF capable de construire 4 réacteurs par an, quasiment à la fin des années 70, à EDF incapable de construire un réacteur en 10 ans.
C'est une question fondamentale qui repose évidemment en partie sur la gestion du projet lui-même, un rapport de Jean-Martin Paul, ça a très bien montré, mais c'est plus global, c'est la question des normes et des procédures, c'est la question des concertations qui se multiplient parfois de manière complètement redondante et qui font perdre du temps, c'est la question de la commande publique et du nombre de marchés à passer, bref, c'est notre capacité à mener de grands projets rapidement. Et je vais vous dire, c'est pas qu'un point industriel, c'est un point politique, parce que face aux pays asiatiques, face aux pays du sud global, si on n'est pas capable de reprendre en main notre destin industriel, c'est-à-dire de construire rapidement des usines, de construire rapidement des infrastructures, on court à la catastrophe.
Alors, justement, ce mur énergétique français, c'est quoi exactement ?
Ce mur énergétique français, c'est le mur qu'on va se prendre d'ici 10 ans si on ne comprend pas plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut combiner sobriété et production. Vous savez, dans le débat public, on caricature souvent les uns et les autres. Donc il y a d'un côté celui qui dit que la sobriété seule nous sauvera, c'est-à-dire la décroissance, et puis d'autres, ceux qui pensent qu'il suffit de produire beaucoup plus d'énergie, même si elle est carbonée, pour s'en sortir. La vérité, c'est qu'on a pris tellement de retard sur la transition. On a besoin d'économiser tellement d'énergie et d'en produire tant qu'il faudra faire les deux. Il faudra développer des industries qui consomment moins d'énergie. Il faudra produire des énergies renouvelables partout sur le sol. Et il faudra aussi faire du nucléaire. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le temps est à celui de pousser tous les curseurs à fond.
Mais est-ce que il est raisonnable aujourd'hui d'envisager tenir nos objectifs pour 2050, notamment la neutralité carbone, et d'être en ligne avec les prévisions d'augmentation de la consommation d'électricité qui sont quand même assez spectaculaires?
Vous avez tout à fait raison, cette ambition électrique, elle est d'autant plus spectaculaire qu'elle correspond à notre propre volonté de réindustrialiser le pays. Autrement dit, si ça se passe bien, si on ramène des usines sur notre sol, on aura d'autant plus besoin d'électricité. Oui, c'est encore possible d'atteindre l'accord de Paris. Oui, c'est encore possible de réussir la transition énergétique. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne peut plus traîner. On a besoin d'une stratégie à 30 ans. On a besoin de lancer les industriels sur cette piste de construire des équipements en France et de les développer et de pouvoir les installer. Et je crois que là aussi, il faut savoir faire des choix. Il faut savoir prioriser. Est-ce qu'on peut se permettre autant de normes, autant de procédures, autant de concertations si on veut atteindre cet objectif? Je ne le crois pas.
Est-ce que l'objectif vert et l'objectif de souveraineté sont des objectifs qui sont compatibles ou c'est des objectifs qui, au contraire, sont plutôt antagonistes ?
Pour la première fois de notre histoire, souveraineté et écologie vont plutôt ensemble. Quand vous développez des installations solaires, éoliennes ou des centrales nucléaires sur le sol français ou européen, c'est moins de carbone, c'est plus d'emplois et c'est plus de souveraineté. Et donc, c'est ça ce message qu'il faut passer. Le temps auquel on opposait l'un et l'autre, il est révolu si on prend conscience que les élus sont parfois en retard sur la société. Les industriels, les élus, les citoyens, ça, ils l'ont en tête, ils l'ont compris. Donc à nous, responsables politiques, de pousser le curseur jusqu'au bout. Mais j'ajoute quand même un point, vous avez raison de le souligner. Si on va trop vite, comme on l'a fait pendant des années, si on veut fermer dès demain certaines centrales à charbon ou certaines centrales à gaz, quel sera le résultat ? C'est ou le risque de blackout ou l'importation d'électricité à partir de charbon allemand ou de gaz russe. Et ça, franchement, ce serait pas la meilleure des solutions non plus.
Pour le dire de façon un peu triviale, est-ce que vous considérez quand même que le pic de conneries a été dépassé ?
Le pic des conneries est dépassé tant qu'on s'en souvient. Notre force, c'est de nous en souvenir et c'est de voir que, bien sûr, qu'un certain nombre d'erreurs ont été faites. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi elles ont été faites. Pourquoi Ségolène Royal nous dit « Mais le président d'EDF, il avait qu'à nous parler de cette histoire de barrage à nationaliser, je m'en serais occupé. » Parce qu'on était dans un monde où il y avait un tel sentiment d'abondance que tout ça ne paraissait pas important. Et donc, ce qu'il faut, c'est absolument se souvenir de la quantité d'erreurs, d'inconséquences qu'on a eues, qu'on a subies pendant des années pour aujourd'hui dire « Oui, c'est urgent. Oui, il y a des difficultés politiques. Oui, le chemin de traverse n'est pas facile, mais c'est indispensable d'y arriver pour des raisons industrielles et politiques. »
Alors Antoine Armand, vous avez bien insisté effectivement sur cette idée que ce sentiment d'abondance a été à l'origine quand même d'une certaine légèreté dans notre politique, énergétique. Et finalement, Simon Porcher, c'est un peu ce qu'on retrouve dans la gestion de l'eau, c'est-à-dire cette idée que l'eau est une ressource abondante qui ne manquera jamais. Et donc c'est pareil, on a quand même été très imprévoyant sur la gestion de nos systèmes d'eau.
Effectivement, alors on a été très imprévoyant notamment sur l'investissement sur le réseau. Si on prend la France, on a 20% de fuites sur le réseau, on est dans la moyenne européenne, mais on a des fuites qui sont très disparates et on a parfois des taux de fuites qui sont très importants dans des zones urbaines. C'est alors, là que c'est important.
Premier point, vous dites on a perdu la valeur de l'eau parce que la gestion de l'eau, c'était trop facile, en fait.
Exactement. Dans les pays industrialisés, la gestion de l'eau, c'était très facile parce qu'on maîtrise la technique de desserte et la technique de potabilisation depuis des siècles. Et donc, chez nous, c'était juste un problème d'investissement, d'argent. Et on a pu d'ailleurs faire venir de l'eau dans des zones arides ou dans des déserts comme à Las Vegas, par exemple.
Ouais. Et vous dites, cette période, elle est révolue.
Cette période est révolue. On passe sur une gestion de l'eau qui est beaucoup plus difficile avec le réchauffement climatique. Des sécheresses qui sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues, des inondations, des pluies diluviennes, et puis aussi avec un accroissement de la population au niveau mondial qui met l'eau sous tension.
Alors attendez, parce que je vais sans doute vous poser une des questions les plus bêtes de la saison dans la librairie de l'écho. Moi j'avais le souvenir qu'il y a toujours la même quantité d'eau sur Terre, on est d'accord ?
Il y a la même quantité d'eau sur Terre.
Voilà, mais et donc comment on passe d'une quantité d'eau constante à des problématiques de pénurie. Est-ce que c'est parce qu'on confond l'eau tout court avec l'eau potable, par exemple ?
Déjà, on confond l'eau en général avec l'eau potable. Tout le monde n'a pas accès à l'eau potable. Hein. C'est la tragédie quotidienne vécue par des centaines de millions de personnes dans le monde. Mais en plus, l'eau est constante au niveau mondial. Mais par contre, on va la retrouver en pénurie à certains endroits, à certaines saisons, et souvent avec pas la bonne qualité pour qu'on puisse l'utiliser, même pour des usages agricoles, par exemple.
Le problème, c'est que la pénurie d'eau, le réchauffement climatique, tout ça s'auto-entretient finalement dans une spirale négative.
Tout à fait. Donc le réchauffement climatique fait que la pluviométrie est de plus en plus imprévisible. Et en plus, il y a la croissance démographique qui met donc l'eau sous tension, et notamment dans les pays en développement.
Alors vous dites des pays en développement, mais c'est vrai qu'aucun pays aujourd'hui n'est à l'abri.
Aucun pays n'est à l'abri. On le voit en France, où on a quand même on a plus d'eau là en ce moment en Guadeloupe. On a eu des coupures d'eau suite aux inondations en Indre-et-Loire. On a l'Occitanie qui est en état de sécheresse. Donc on voit que même sur un pays à quelques centaines de kilomètres, on va avoir des périodes de pénurie ou des territoires qui vont être en pénurie de façon permanente, notamment tout le bassin méditerranéen en France.
Comment on mesure le coût aujourd'hui de la mauvaise gestion de l'eau ?
Alors, il y a différents coûts. Il y a des coûts économiques. Donc, le risque, c'est l'arrêt, par exemple, des centrales nucléaires, justement, qui sont refroidies par de l'eau.
Ouais.
La remise en question de l'irrigation dans l'agriculture ou d'une certaine forme d'agriculture sur certains territoires. Il y a des coûts sociaux. Le fait qu'on n'ait plus accès à l'eau. Imaginons qu'on ouvre le robinet, qu'il n'y ait plus d'eau qui coule. C'est quand même extrêmement gênant. Et puis, ça va transformer la société. Hein. Ça s'est passé au Cap en Afrique du Sud, où les plus riches, bah, du coup, se sont fait quasiment porter de l'eau par les plus pauvres. Donc, on retrouve voilà, la situation qu'on pouvait avoir au 19e siècle. Il y a des coûts en termes de santé publique, des coûts pour l'environnement, et évidemment des coûts sur la paix. Parce que l'idée, c'est qu'on va avoir des conflits d'usage. On l'a vu avec les méga-bassines en France, mais potentiellement aussi des conflits entre territoires, des conflits entre États autour de cette ressource eau.
Alors, vous dites, le problème vient aussi du fait qu'on a toujours eu de faibles incitations à économiser l'eau.
Bien sûr, oui.
Et de faibles incitations à investir aussi dans la distribution de l'eau.
Tout à fait. Alors, on a peu d'incitations à économiser l'eau. Si on se met du point de vue des opérateurs, donc des entreprises privées ou des régies publiques qui gèrent l'eau, elles sont payées au volume vendu. Donc, elles ont intérêt à ce qu'on consomme le plus d'eau possible. En fait, il faudrait les payer sur les investissements sur le réseau pour réduire les fuites ou sur leur capacité à nous faire économiser de l'eau. Et ça, c'est justement le business model, le modèle économique des opérateurs privés notamment, est en train de changer de manière à mettre en place ces incitations pour les consommateurs. Et puis nous-mêmes, en tant que consommateurs, on ne connaît pas bien notre consommation d'eau. Donc moi, je suis incapable de vous dire, hein, j'habite dans un immeuble collectif, je ne peux pas vous dire combien d'eau j'ai consommé dans l'année, et aujourd'hui encore moins. Je suis incapable de vous dire le nombre de litres d'eau qui sont sortis de mes robinets ou que j'ai utilisé en me douchant. Par contre, je peux vous dire le nombre de pas que j'ai marché, le nombre de calories que j'ai dépensées, mon temps d'écran, mais je suis incapable de vous dire très précisément ma consommation d'eau du robinet, et encore moins de vous parler de mon empreinte eau. Donc quand j'ai consommé un café ce matin, quand j'ai mangé une banane, combien d'eau avait été intégrée pour produire ce café ou cette banane ?
Alors l'état quand même de nos réseaux d'eau, comment on a pu... Alors c'est vrai qu'on n'a pas été incité à gérer effectivement, mais comment on peut tolérer un tel niveau de perte en ligne aujourd'hui, puisque c'est quoi ? C'est 20 à 30% ?
On est à 20%.
De l'eau qui disparaît quoi, à cause de canalisations mal entretenues.
Et bien effectivement, on a 20% de pertes. Alors, ces 20% de pertes, il faut savoir que c'est une moyenne. Donc, en plus, il y a des grandes disparités au niveau national. Hein. On a des réseaux à plus de 50% de pertes. Donc, c'est évidemment sur ces réseaux qu'il faut investir en priorité, qui sont souvent d'ailleurs situés en zone rurale. Et puis, dans les réseaux urbains, il faut aussi diminuer les fuites pour qu'on soit à peu près à 10% de fuites, comme à Paris. 20% de fuites sur un réseau urbain, ça fait beaucoup, beaucoup de mètres cubes d'eau qui sont perdus parce qu'on a une forte densité de population. L'explication est assez simple, c'est qu'on s'est trop intéressé au prix de l'eau. On a cherché à diminuer le prix de l'eau, et en France, on a d'ailleurs un prix de l'eau qui est 10% moins cher que dans le reste de l'Union européenne, de manière à donner ce service public accessible à l'ensemble de la population. Mais derrière, évidemment, il y a un sous-investissement sur le réseau, et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on ne va pas devoir augmenter le prix de l'eau pour investir sur le réseau, pour l'adapter aussi au changement climatique.
Mais c'est quoi la meilleure façon de gérer l'eau ? Il y a toujours ce débat entre public, privé. Est-ce qu'on sait, et dans votre livre d'ailleurs, vous allez au-delà de la France, vous parlez des expériences internationales, est-ce qu'on sait quelle est la meilleure façon de gérer l'eau ?
On n'a pas vraiment de réponse. On a un modèle, nous, français, dans lequel, effectivement, on a eu des opérateurs privés qui gèrent le réseau, mais qui ne sont pas propriétaires du réseau. Hein. Mmh. Ce sont les collectivités publiques qui sont propriétaires du réseau. Donc, on n'a pas complètement privatisé le réseau. Ça, c'est notre modèle français qui marche plutôt bien, en fait. Hein. On a trois entreprises même qui sont des géants de l'environnement au niveau international, qui connaissent toutes les innovations qu'on doit mettre en œuvre, justement, pour éviter la fin de l'eau et qui les ont sur leurs étagères. Donc, qui sont plutôt des entreprises très performantes. Maintenant, il y a aussi un côté très politique dans l'eau, et donc on ne peut pas en vouloir à des maires de vouloir récupérer la gestion du réseau et de gérer en régie leur eau, ce qui s'est passé à Paris, à Nice, à Lyon récemment. Il y a une question aussi de politique et de prise de conscience aussi du politique sur ces enjeux qui veut prendre la main sur la gestion de l'eau.
Vous voyez bien comment ça se passe, c'est-à-dire que, en fait, quand c'est géré par les municipalités, elles répugnent à augmenter les prix, donc du coup, elles n'investissent pas. Donc du coup, le réseau se dégrade. Du coup, on dit c'est plus possible, donc on fait appel aux entreprises privées. Entreprises privées qui, elles, vont faire les investissements, qui vont augmenter les prix, jusqu'à ce qu'il y ait un maire qui se décide finalement, parce que ça marche bien, à reprendre la main. Et on a l'impression que c'est des cycles sans fin comme ça.
Alors potentiellement, mais on peut avoir aussi le phénomène inverse. Donc on peut avoir une régie qui est complètement sous-performe et qui, du coup, avec un conseil municipal qui décide de passer avec une gestion déléguée. Donc on a des mouvements dans les deux sens. Hein. Mais en France, on a une grande tendance à privatiser, entre guillemets, donc à utiliser la gestion déléguée dans les années 1980 et 90. Et là, c'est vrai que depuis les années 2010, il y a eu un retour en régie, un passage en régie, avec une gestion des maires qui veulent s'impliquer. Et donc ça, c'est plutôt sain que les politiques aussi prennent la mesure de ce qui se passe dans l'eau et soient soit encore plus redevables de la gestion du réseau.
Mais est-ce qu'on sait quel est le bon prix pour l'eau ? C'est ça aussi qui est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction des territoires, l'eau n'est pas accessible de la même façon. Et donc, on peut pas comparer entre territoires le prix de l'eau.
Tout à fait, ouais, c'est très compliqué parce que
l'eau. Il y a des fois où l'eau elle va être disponible facilement, mais où en réalité on va se rendre compte qu'elle est plus chère que dans un endroit où elle est plus difficile d'accès.
Exactement, ouais, effectivement, l'eau qui, par exemple, s'il faut la cheminer en montagne, ça va être plus cher.
Bah ouais.
L'eau qui est moins polluée est moins chère parce qu'il faut moins la traiter. Donc effectivement, le bon prix de l'eau, ça dépend de la qualité de l'eau quand on l'a extraite, de l'eau brute, de la densité du réseau, du nombre d'abonnés, donc ça dépend aussi de l'infrastructure. Mais effectivement, un prix élevé peut indiquer qu'on a à la fois une mauvaise qualité de l'eau quand on l'extrait, mais aussi qu'on a fait les investissements sur le réseau. Donc il faut prendre tout ça en compte dans l'équation, mais il y a un bon prix pour un niveau de fuite, pour un niveau de qualité de l'eau et pour une qualité de service, en tout cas.
À quoi il faut s'attendre dans les années qui viennent ? Est-ce que on va devoir... est-ce que vous anticipez une amélioration du service de l'eau, ou bien est-ce qu'au contraire, il faut redouter dans nos pays une dégradation du service de l'eau ?
Alors, la question se pose évidemment, mais il faut l'améliorer absolument, il faut l'adapter au changement climatique, parce qu'on voit que les périodes de sécheresse et d'inondation sont de plus en plus fréquentes, que ça met en pause souvent le service public de l'eau, que ça crée des points noirs, donc des communes dans lesquelles il n'y a même plus d'eau du robinet, donc il faut vraiment investir sur le réseau pour l'adapter. On parle parfois de 100 milliards d'euros d'investissement à faire sur 30 ans. Donc c'est énorme en termes d'investissement, mais il faut le faire de manière à éviter justement la fin de l'eau potable pour nous et éviter aussi les conflits de l'eau entre usagers.
Alors c'est ça. Alors les conflits de l'eau, vous dites ça, c'est quelque chose qui risque de se multiplier, que ce soit d'ailleurs au sein des pays ou que ce soit entre pays.
Oui.
Alors que, sauf erreur de ma part, jusqu'à maintenant... on peut dire quand même que même des pays qui ne s'entendaient pas politiquement, s'il y a un sujet sur lequel ils arrivaient quand même à peu près à s'entendre, c'était le partage de l'eau.
C'est exact, oui. L'eau, c'est à la fois... Alors l'eau, c'est souvent une frontière, et donc c'est à la fois source de conflit, mais aussi source de coopération. Et même des pays qui ont été en conflit, souvent, ne sont pas entrés en conflit directement sur l'eau, ou pas détourné la ressource d'eau de leurs voisins, par exemple. Parce que en fait, l'eau c'est un petit peu comme l'arme nucléaire. En fait, on essaye de c'est vraiment la limite à ne pas franchir. Mais on va avoir des conflits d'usage qui vont être de plus en plus récurrents sur un territoire. Alors ça peut être
entre vous redoutez plus les conflits au sein des pays entre guillemets, j'ai envie de dire, plutôt que les conflits géopolitiques autour de l'eau.
Il peut avoir les deux, mais les conflits au sein d'un territoire, eux, vont être permanents ou il y aura des tensions permanentes. Mais pareil entre pays, hein, parce que évidemment, quand vous pensez que la Chine et l'Inde se disputent en partie de l'eau, les deux géants ont besoin de l'eau pour leur développement économique, et donc à un moment, les gains de la paix sont inférieurs. Je veux dire.
Mais alors chez nous, ça prend quelle forme ?
Alors chez nous, par exemple, ça sera plutôt des conflits effectivement sur un territoire entre usagers. Mais par exemple, l'Espagne, l'Orgne, l'eau de France, Barcelone n'a plus d'eau et en période de sécheresse. Et donc là, on sent aussi qu'on peut avoir des conflits interterritoriaux ou entre pays autour de la ressource.
Antoine Armand, puisque vous êtes toujours avec nous, il y a quand même beaucoup de similitudes entre ces dossiers. Ce qui est quand même frappant, c'est que avec le Covid et avec la guerre en Ukraine, on ne croyait plus du tout devoir revivre les moindres pénuries. Et en fait, on se retrouve à nouveau dans un monde de ressources rares.
Absolument, et surtout ce nouveau monde, ce monde où les chaînes d'approvisionnement peuvent se rompre presque du jour au lendemain, il nous incite à penser une sorte d'économie de la ressource. c'est-à-dire avoir une pensée globale qui intègre bien sûr l'énergie dont on a besoin pour produire un bien, mais aussi l'eau, vous en parliez sur le plateau, le foncier nécessaire pour développer ses activités, la partie aval, le recyclage, les déchets. Et donc c'est toute la chaîne qu'il faut voir en amont et en aval, sinon l'empreinte de chaque produit qu'on consomme n'est pas claire, n'est pas comprise et n'est pas assumée dans sa globalité. Et en fait, c'est ça le défi le plus important, sans doute aussi du point de vue énergétique. Si vous pensez à l'électricité renouvelable, il faut penser aux panneaux solaires que vous installez, et donc il faut penser au silicium, il faut penser aux terres rares qui viennent souvent de Sibérie ou de pays asiatiques, et il faut penser à l'électricité qui a permis de produire ces panneaux. Bref, c'est toute la chaîne qu'il faut regarder si on veut être cohérent d'un point de vue climatique et environnemental.
Simon Porcher, est-ce que la France fera partie finalement des gagnants ou des perdants de ces défis à relever ?
On espère des gagnants, évidemment, mais il faut prendre la mesure des défis. Je pense que la population et les gouvernements maintenant ont bien intégré le défi climatique, mais il faut s'adapter dès maintenant pour être prêt, pour se préparer à la fin de l'eau et éviter les blackouts.
Merci beaucoup, messieurs. Donc la conclusion, c'est que pour éviter de se retrouver en pénurie d'énergie et en pénurie d'eau, eh bien ça se prépare dès maintenant. Merci beaucoup à tous les deux. Simon Porcher qui publie La fin de l'eau chez Fayard et le député Antoine Armand pour Le mur énergétique français. C'est aux éditions Stock.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Le Chypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs, notre globetrotteur Benaouda Abdelhaim et notre bibliothécaire du jour Marjorie Adelson. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr. Et le grand Manitou de la critique de livres à Alternative Économique. Et à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School. Critique attitré, lui, de la Société d'économie politique. Allez, on démarre, tiens, avec votre choix, Jean-Marc, c'est le livre de Laure Kenwell-Core, qu'on a déjà reçu dans la librairie de l'Écho. Ça s'appelle « Le déni de la dette » chez Flammarion.
Oui, c'est un livre qui est un livre que j'ai trouvé passionnant, même s'il est quelquefois assez ardu et s'il peut être quelquefois un peu fastidieux. Ouais. Donc elle fait une histoire de la dette avec, en parallèle, en simultané, une histoire de l'opinion de l'opinion publique autour de la dette.
D'accord.
Et de la façon dont la dette est perçue. Alors elle commence pas au temps mérovingien, elle commence essentiellement au début de la Troisième République, et l'essentiel de son propos porte sur la période qui suit, qui pendant la Première Guerre mondiale, suit la Première Guerre mondiale. Il y a une partie assez longue sur la Première Guerre mondiale, sur le redressement qui a suivi, sur la gestion par le cartel des gauches de la dette et tout ça. Puis ensuite, elle va jusqu'à nos jours. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans le livre, encore une fois, il y a des passages où il faut un peu s'accrocher parce qu'elle rappelle comment on émet de la dette, quels sont les types de produits qui sont placés. Et ce que je trouvais, d'abord, elle montre bien que le débat parmi les élites qui nous gouvernent, c'est essentiellement entre la dette qui va être monétisée, c'est-à-dire la dette qui va créer de la monnaie, qui va être susceptible de créer de l'inflation, et la dette qui va être financée par de l'épargne, c'est-à-dire par des produits qui sont placés auprès du public. Et elle dit, encore une fois, simultanément, il y a une opinion qui se constitue, et elle essaie de trouver cette opinion, d'abord dans les journaux. Elle explique que, sous la Troisième République, les journaux sont extrêmement lus, et qu'il y a des interventions dans les journaux d'économistes, de spécialistes, de juristes, ouais, d'assez bon niveau, dit-elle, qui fait que ces interventions font qu'on peut considérer que l'opinion publique est relativement avertie de ce qui se passe.
Okay.
Avec comme conséquence que les hommes politiques sont obligés de se justifier, expliquer pourquoi la dette, c'est pas si grave que ça, avec des périodes où ils changent d'opinion. Elle montre bien que Léon Blum est contre la dette dans les années 20, et en revanche, il accepte l'idée du keynésianisme de naissant dans les années 30. Puis alors, au fur et à mesure que le temps passe, elle montre bien que les vecteurs d'opinion sont de moins en moins bien informés, de moins en moins pertinents. Elle dit, dans les années 50, d'abord, pour savoir ce qu'on dit à l'opinion, il faudrait écouter les émissions de radio. Elle dit, ça, j'ai pas pu le faire, je me suis contenté de la presse. La presse qui est vraiment pertinente, c'est deux journaux, Le Monde et l'Express, mais les autres, il n'y a pas véritablement d'avis très, très bien renseigné. Et puis, on arrive à la période actuelle, ou alors c'est l'explosion, les réseaux sociaux, n'importe quoi, le procès de la loi de 73 sur la Banque de France, elle dit, et donc, on en arrive à cette situation où il y a ce qu'elle appelle un déni de la dette, c'est-à-dire les gens ne réalisent plus qui sont les vrais enjeux, quels sont les vrais enjeux derrière la dette, et elle dit, elle appelle, alors c'est un travail d'historienne, donc elle ne prend pas normalement position, mais quand même dans son épilogue, dans l'épilogue, elle prend position, elle dit, il faut quand même que les gens prennent conscience qu'il y a un vrai problème, que leur perception de ce mécanisme de la dette est en train de se défaire par rapport à ce qu'elle a pu être dans les années 1920 ou 1930, et donc elle appelle à une forme de sursaut autour de la dette. Encore une fois, c'est un livre qui est exigeant, il y a des périodes, je dis, assez fastidieux, mais c'est un livre que je trouve utile et important.
Christian Chavagneux.
Oui, c'est vrai, il y a des moments où c'est un peu fastidieux, c'est un peu exigeant, mais quand même, il y a plusieurs bouquins, en fait. Il y a le bouquin historique, celui qui nous raconte le développement de la dette en France, hein, pas en général, en France, et ça, c'est vraiment ce travail d'historien vraiment intéressant. On peut tirer plein de petites leçons. Bah, généralement, la dette publique, c'est pas une surprise, elle augmente pendant les guerres et les crises. Hein. 1870, on a beaucoup de réparations, grosses dettes, mais on va s'en sortir très très bien. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, plus récemment, la crise des subprimes et puis la pandémie. Voilà, c'est ça, c'est les grands moments où la dette explose vraiment. Elle nous dit aussi qu'il y a une forme de consensus chez les élites sur l'intervention de l'État et donc sur la façon de... Bah, il faut bien le financer si on pense que l'État... Il y a quelque chose qui a dû intéresser Jean-Marc, c'est que les libéraux, pendant très longtemps, étaient pro-dette parce qu'ils étaient anti-fiscalité et donc pro-dette. Les Jean-Marc Daniel d'hier et d'avant-hier disaient « Mais à l'État, financez-vous par la dette publique. C'est mieux que si vous le financez par l'impôt. » Et puis, c'est pas une leçon explicite, mais qu'on retire à la lecture de toutes ces pages, la France a jamais eu aucun problème pour financer sa dette publique. C'était assez facile. Donc, pourquoi se priver de quelque chose qui était assez facile. Alors il y a quand même des libéraux qui ont dit attention, il faudrait peut-être quand même, si vous voulez vraiment un équilibre budgétaire, il faudrait peut-être quand même augmenter les impôts. Il y a la fameuse lettre de Wilfried Baumgartner en 1952, le gouverneur de la Banque de France à l'État, disant attendez, pour l'équilibre budgétaire, il faudrait peut-être un petit peu augmenter les impôts. Des rapports du plan sont cités du début des années 80, pareil, le rapport Pébro 2005 qui dit attendez les gars, si vous voulez vraiment maîtriser la dette publique et les déficits, il faut arrêter de baisser les impôts. Et puis le fameux rapport Champsaur-Cotis qui montre que entre 2000 et 2010, on a perdu l'équivalent de 20 points de PIB de recettes fiscales. Donc ça a été vraiment la débandade totale. Jean-Marc l'a dit, seul point d'inquiétude au moment des débats de ces élites, c'est est-ce que la dette est monétisée ou pas ? Est-ce que c'est financé par des apports de la Banque centrale ? Et donc, est-ce que c'est inflationniste ou pas ? C'est ça le seul vrai débat qu'il y a eu, sinon plutôt une acceptation générale de la dette par les élites, par les dirigeants. Alors, du côté du public, Jean-Marc l'a dit, elle va chercher les journaux. Mais si vous allez chercher les journaux sur le traité sur le vote sur le traité constitutionnel européen, tous les journaux vous disaient que c'était très bien et pourtant c'était non. Donc est-ce que les journaux reflètent vraiment ce que pensaient les gens ? Pas évident. Après, il y a les sondages. Elle dit elle-même, des fois, les sondages, il y a une réponse à une question, réponse à une autre, c'est pas toujours cohérent. Donc cette partie, je trouvais moins robuste sur vraiment ce que pensent les gens. Et puis évidemment, la partie qui est pas du tout robuste, en tout cas qui est contestable, c'est l'épilogue quand elle nous dit la dette publique depuis plusieurs années a dépassé ce que c'est dangereux. Bon, je veux bien, mais elle est où la justification théorique ? Elle est où la justification empirique ? Peut-être que la dette, c'est pas dangereux, mais la charge de la dette est importante. L'INSEE nous a dit il y a 10 jours que la charge de la dette en 2023, c'était 1,8% du PIB. Sur 40-45 dernières années, c'est 2,4-2,5. Bon, c'est pas excessif, etc., etc. Donc là, la partie conclusive, dans l'intro, dans la conclusion, c'est plus l'historienne qui parle, c'est la citoyenne. Elle a le droit de prendre les positions qu'elle veut en tant que citoyenne, mais là, c'est pas du tout justifié. Ça aurait mérité d'être un petit peu plus justifié.
Moi, j'ai trouvé ça très pertinent.
Voilà, et ben voilà. Donc ça rend compte.
Je vais d'ailleurs conclure sur ce livre juste très rapidement par une citation. Elle dit les Français n'aiment pas leur État, mais ils en attendent tout ou presque. Ils le soupçonnent d'être l'instrument des nantis et des puissants, mais ils lui demandent assistance et protection. Ils se défient de ce Léviathan inaccessible, mais ils se réjouissent qu'il accroisse et diversifie ses interventions. Alors c'est pas de l'auteur, elle cite un journaliste. C'est cet article du Monde de octobre de 1970. Et l'auteur, c'est Alain Duhamel. Notre collègue Alain Duhamel, qui en 1970 avait fait un papier, donc elle le considère comme un des papiers importants sur la perception de l'État par les citoyens et par les élites.
Enfin, déni généralisé, donc, hein, partout, les hommes politiques, nos dirigeants, les Français.
Acceptation, parce qu'il n'y a pas de problème.
Acceptation et voilà, contradiction dans le rapport à l'État.
Bon, ok. Ok, ok. Donc finalement, oui, on se demande. Enfin, on ne sait pas plus si c'est toujours, s'il faut s'inquiéter ou pas, quoi. Plutôt non, en fait.
Ah non, plutôt si.
Pour l'autrice, oui, plutôt oui, mais sans
plutôt non.
Analyse historique, plutôt non.
Bien mesurer tout ce qu'il y a dans l'épilogue et vous verrez que c'est plutôt oui.
D'accord. Alors, on passe à votre choix, Christian Chavagneux, le livre de Jean-Baptiste Fressoz, Sans transition, au seuil.
Jean-Baptiste Fressoz, donc c'est un historien des sciences et j'ai bien aimé ce livre parce qu'il remet en cause des idées reçues qui sont assez répandues. Il nous dit, dans l'histoire de l'énergie mobilisée par les économies, il y a eu le bois, puis après on est passé au charbon, puis après on est passé au pétrole, maintenant on essaie de sortir du pétrole en s'appuyant sur les énergies renouvelables. Pas du tout ça que c'est passé. En termes relatifs, oui, aujourd'hui on utilise moins de charbon qu'à la fin du 19e, mais en termes absolus, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Vous prenez l'Angleterre à la fin du 19e, elle utilise 10 fois plus de charbon à la fin du 19e qu'elle faisait au début de l'époque. Mais 6 fois plus de bois aussi. Donc, il n'y a pas substitution d'une source d'énergie à une autre. Et non seulement, nous dit l'auteur, il n'y a pas substitution, mais il y a même complémentarité. Ouais. Je veux dire, regardez, à la fin du 19e, c'est des chemins de fer, on en fait partout. Donc, les chemins de fer, c'est l'âge du fer. Fini le bois. Ouais. Pas du tout. Pour faire les traverses, il faut du bois. Pour faire les quais, ils les font en bois. Pour faire les gares, ils les font en bois. Vous prenez la masse physique du bois et du fer à la fin du 19e, il y a 6 fois plus de masse de bois que de masse de fer. Donc il dit attention, il n'y a pas du tout de transition, d'où le titre, il n'y a pas de transition d'une source d'énergie à une autre, et tout le livre va nous dire, quand on a...
Donc, Christian, juste pour être très clair, on nous parle de transition énergétique, ça ne s'est donc jamais produit dans l'histoire.
Exactement. Il y a toujours eu des nouvelles sources d'énergie, mais
sont
les anciennes...
Aux anciennes.
Et non seulement elles sont venues s'ajouter, mais en plus, les nouvelles se servent et développent encore les anciennes. Quand on a développé le pétrole, il fallait des instruments de fer pour aller chercher. Le fer, il était fait comment? Il était fait avec du charbon.
D'accord.
Au début, le pétrole, on transportait comment? Dans des tonneaux de bois. Plus il y avait de pétrole, plus il y avait de bois utilisé. Donc, non seulement il n'y a pas substitution d'une source d'énergie à une autre, mais en plus, il y a complémentarité. Et tout le bouquin va arriver jusqu'à aujourd'hui pour nous dire, regardez, toutes ces sources d'énergie, non seulement s'empilent les unes sur les autres, mais s'entraident les unes pour les autres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour aujourd'hui? Pourquoi tout d'un coup, on parle de transition? Il dit, au début, on a commencé à parler de transition dans les années 50-60, quand les pro-nucléaires se sont développés. Ils ont dit, bientôt, il n'y aura plus de pétrole, et donc, il va falloir faire la transition, la sortie du pétrole. Prenez donc notre énergie, nous, on pense que c'est la meilleure, l'énergie nucléaire. Et puis ensuite, il y a toutes les grandes entreprises, nous dit l'auteur, 21e siècle, début du 21e siècle, il nous dit, la transition, c'est du greenwashing, il nous dit, c'est devenu l'idéologie du capital du 21e siècle, c'est les entreprises qui disent, nous, on est en train d'en sortir, mais attention, on va pas s'en sortir comme ça, même si on développe les énergies renouvelables à fond, et il faut le faire, c'est pas pour ça qu'on va se débarrasser aussi vite qu'on pense du pétrole, le plastique, l'agriculture, l'aviation, tout ça, ça va pas être si facile que ça d'en sortir, donc il faut en faire encore plus d'efforts que ce qu'on croit si on veut vraiment se débarrasser des hydrocarbures aujourd'hui.
Jean-Marc Daniel.
Moi, j'étais assez séduit au départ en me disant il a un point de vue assez paradoxal. Or, en fait, on est assez vite d'abord désarçonné par le style. La forme est assez virulente. Il n'arrête pas de dire vis-à-vis de ses contradicteurs qu'ils n'ont rien compris, qu'ils sont dans l'erreur. Schumpeter, oublié, il n'y a pas de destruction créatrice. Alors, il a une chose, c'est qu'il parle de prix Nobel d'économie.
Donc, mon Dieu.
Et tout le monde peut faire des erreurs. Ouais.
Voilà. Donc, prix Nobel d'économie. Donc, il commente, par exemple, le discours de Paul Romer, qui explique que, grâce au progrès technique, on est passé quand même de la bougie à la lampe électrique et qu'il y a une amélioration. Et ce qu'il ne dit pas, ce que dit Paul Romer, c'est que l'amélioration a surtout concerner les gens les plus pauvres, parce que ceux qui avaient de la bougie, le roi de France au XVIIIe siècle, il avait la même quantité de lumière que le président de la République aujourd'hui. Mais le paysan français, il avait, avec ses bougies, il n'avait pas assez de bougies, il n'avait pas les mêmes quantités de lumière. Donc, l'exemple, effectivement, il y a un long passage sur le charbon, les chemins de fer, mais ce qu'il dit bien, il le reconnaît lui-même, c'est qu'en fait, le bois a changé de statut. Le bois s'est maintenu, mais plus comme source d'énergie. Le bois est devenu, effectivement, dans les mines, l'essentiel de l'étayage était fait avec du bois. Il le dit aussi, il dit effectivement dans les chemins de fer, les traverses, c'est du bois, mais ce n'est plus de l'énergie. Il dit aussi...
c'est quand même du bois coupé.
C'est du bois coupé. Et donc, effectivement, la matière qui a été utilisée comme énergie ne disparaît pas totalement dans le processus productif, mais elle change de statut. Sur l'éclairage, par exemple, il dit à la fin, on était arrivé à des bougies extrêmement performantes avec de la graisse de baleine. Et il dit, vous regardez, tout le monde dit, ça y est, les baleines sont sauvées. Pas du tout, on continue à utiliser cette graisse de baleine, mais pas du tout pour faire des bougies. Et donc, sa thèse qui consiste à dire, il y a une complémentarité, chaque couche vient en supplément de la couche précédente, et pas tout à fait convaincante. C'est-à-dire que chaque couche libère l'utilisation nouvelle pour la couche précédente. À un moment donné, il cite Condorcet, il dit, une fois qu'on aura réussi à se débarrasser du cheval, du bois et tout ça, on pourra utiliser les champs pour faire autre chose que de l'avoine, et les arbres pour faire des meubles. Mais c'est ce qu'on a fait. Et donc, effectivement, le bois n'a pas disparu, le bois c'est devenu des meubles, et les champs n'ont pas disparu, et les champs c'est devenu du blé. Mais cette thèse comme quoi il n'y a pas de destruction, et donc il n'y a pas de création. Et la dernière chose que je trouve... Alors là, assez intéressante...
Très vite, Jean-Marc.
Oui, Christian l'a dit, c'est que, en fait, toutes ces thèses sur les transitions et tout ça sont utilisées plus par les prospectivistes que par les historiens. C'est-à-dire que les prospectivistes ont besoin d'une certaine vision de l'histoire pour construire leur vision de l'avenir. Et donc ça, c'est assez bien vu. Mais pour le reste, c'est pas très convaincant.
Ah, je vous trouve sévère. Jean-Marc. On retrouve tout de suite notre bibliothécaire, Marjorie Adelson.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain.
Et on retrouve notre bibliothécaire du jour, Marjorie Adelson. Bonjour Marjorie.
Bonjour.
À l'occasion des 50 ans de la mort de Georges Pompidou, vous nous présentez ce qui est peut-être son livre testament, Le Nœud Gordien, aux éditions Perrin.
Eh ben, c'est un livre, il faut savoir, qui n'a été publié qu'après la mort de l'ancien président.
Ouais.
Et donc, vous le disiez, il va être réédité en avril aux éditions Perrin.
Exactement.
Alors, c'est un essai politique, en fait, qui est inachevé, puisque Pompidou a commencé à l'écrire juste après mai 68, alors qu'il était Premier ministre, mais il a été interrompu par son élection en 1969. C'est un texte, en fait, dont l'intérêt est double. Alors déjà, il nous éclaire sur les années 1969-1974, pour ceux qui ne les ont pas connus. Et puis, au-delà de ça, eh bien, il est extrêmement visionnaire.
Alors déjà, Georges Pompidou, il s'attaque à un thème un peu récurrent qui est les Français, c'est impossible de les gouverner.
Exactement, il parle par exemple de cette exception française, selon lui, qui fait que les Français ont du mal à accepter toute forme d'autorité, avec un corollaire, remettre en cause l'État dès qu'il y a une crise politique. Et le fameux nœud gordien dont il parle, eh bien, c'est comment en fait concilier un État tentaculaire avec la montée de l'individualisme. Au moment où il l'écrit, il estime que le fascisme est proche. Voici ce qu'il dit. Le fascisme n'est pas si improbable. Il est même, je crois, plus près de nous que le totalitarisme communiste. À nous de savoir si nous sommes prêts pour l'éviter, à résister aux utopies et aux démons de la destruction.
Ouais, c'est vrai qu'on vous disait que c'était moderne.
Exactement, quand on voit surtout la tentation autoritaire qui est en Europe, mais pas que en Europe, hein, on se dit qu'il n'avait pas tout à fait tort.
Alors, il y a aussi tout un volet économique dans le Nœud Gordien.
Oui, et cette partie, elle a vraiment un sacré écho. Pompidou revient, par exemple, longuement sur la difficulté d'établir une politique économique quand on est au pouvoir, avec, selon lui, d'un côté les libéraux qui ne parlent que de la manière de gagner de l'argent, et de l'autre, les socialistes qui sont obsédés par la redistribution de la richesse sans trop s'intéresser à comment on la crée. Ce qui est amusant, c'est que là aussi, eh bien, ça pourrait tout à fait être écrit aujourd'hui.
Et alors, effectivement, il n'y a pas que ça comme préoccupation qui font écho à ce qui traverse aujourd'hui la société française.
Oui, par exemple, il y a un exemple qui est intéressant, c'est qu'il affirme l'urgence de construire des logements pour les classes moyennes. Mmh. Et rappelez-vous, ce sont un peu les annonces il y a quelques semaines avec les fameux 1 milliard d'euros pour les logements intermédiaires. Alors, il y a un côté qui est un petit peu inquiétant aussi parce qu'on se dit qu'on a toujours les mêmes problèmes et qu'on a du mal à trouver les solutions. Autre question qui est abordée aussi dans l'ouvrage et qui s'est énormément posée pendant le Covid et l'inflation, eh bien, c'est celle de l'interventionnisme de l'État. Pompidou estime qu'en période de croisière, eh bien, l'État doit se garder d'intervenir, mais que sinon, il faut faire des plans. En lisant ça, moi, je pensais au bouclier pour le gaz, au plan France 2030, par exemple. Et c'est vrai que des plans, eh bien, Pompidou, il en a fait, le TGV, la NPE, l'aménagement du territoire et même les stations de ski avec le plan neige. Donc vraiment, ce qui est intéressant dans ce livre, eh bien, c'est qu'il humanise aussi un petit peu les politiques dans le sens où on se rend compte à quel point, en fait, eh bien, un, il est très difficile de gouverner la France, et deux, qu'il faut jongler en permanence avec des intérêts qui sont très divers. C'est donc comme ça une sorte de petit guide de la politique que vraiment je conseille à tous. Et d'ailleurs, je pense que ce petit livre, eh bien, Emmanuel Macron l'a lu.
L'a lu, et il pourra le relire donc dans la nouvelle version qui sortira mi-avril aux éditions Perrin. Merci beaucoup, Marjorie. Allez, c'est l'heure de retrouver notre globe-trotteur, Benaouda Abdennaïm.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs.
Cher Benaouda, bonjour.
Bonjour.
Benaouda, on commence notre tour du monde hebdomadaire par la coopération entre la Corée du Nord, la Chine et la Russie, bloc économique et violation des sanctions.
Oui, Moscou vient de mettre son veto à une résolution contraignante des Nations Unies destinée à renouveler le groupe de surveillance des sanctions internationales visant la Corée du Nord. Ça démontre à quel point Pyongyang s'est assuré un soutien tout à fait essentiel au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Sur le sujet, on peut se rapporter à cet angle de vue proposé par un chercheur du KINU, c'est l'Institut sud-coréen de l'unification nationale, institut de recherche. Lee Jae-yong envisage de la formation d'un bloc trilatéral entre Pyongyang, Moscou et Pékin, le triangle de l'Asie du Nord, rappelons-le, ces États sont frontaliers. Il opérerait de cette manière. La Chine en serait le chef de file, bien entendu, économique, financier et technologique. La Russie, le coordinateur géopolitique. Et la Corée du Nord maintiendrait la pérennité de son régime en se conformant à telle ou telle commande commerciale sous les radars le radar chinois ou russe. Ouais. Notamment en matière d'armement, comme les obus d'artillerie, comme on peut le voir actuellement dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ou bien d'activités les plus, disons, en contradiction avec les normes internationales courantes. Mais là où l'auteur sud-coréen estime que Pékin peut en fait vouloir se tenir à l'écart d'un tel projet géoéconomique, c'est que l'État chinois réalise d'importants efforts pour se conformer aux meilleurs standards environnementaux afin d'aller vers la neutralité carbone notamment, ce qui n'est pas le cas de l'État russe. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, je cite. Et puis pour la Chine, il y a là à sous-peser tout le choix entre commercer avec les États-Unis et ses riches alliés européens et asiatiques d'un côté, et puis une Corée du Nord dont le produit intérieur brut ne représente qu'une infime partie de celui de la Corée du Sud. Et toujours, selon l'auteur, Pékin n'entend certainement pas s'enfermer dans une telle alliance sans guère de plus-value pour ce qui concerne les chaînes d'approvisionnement les plus sophistiquées à moyen et long terme, intelligence artificielle, informatique quantique, biotechnologie, semi-conducteurs de pointe, etc. Il n'y a donc pas de quoi intéresser la Chine à violer, le cas échéant, les sanctions onusiennes à l'encontre de Pyongyang.
Direction l'Amazonie, ensuite Benaouda, le pillage de l'Amazonie. Et on remonte aux origines des délits environnementaux dans la région des Trois Frontières.
Alors, le sort de l'Amazonie se trouve plus que jamais au cœur des enjeux internationaux. On a encore pu le voir avec le lancement d'un programme vert conjoint signé récemment entre le Brésil et la France. Ce programme a été doté en principe d'un milliard d'euros de fonds publics et privés. L'Institut brésilien Igarapé travaille de longue date sur ces dossiers amazoniens. Et voici l'un de ses plus récents travaux de recherche qui se penche sur deux régions spécifiques amazoniennes, à cheval sur trois États. Alors l'une entre le Brésil, la Colombie et le Venezuela. Il faut reprendre sa carte, et l'autre entre le Brésil, le Pérou et la Colombie. Des milliers de kilomètres carrés connectés par une dynamique transnationale, je cite, de routes, de circulation de biens, de personnes, de pratiques commerciales légales et de réseaux criminels. Et ça se passe dans des zones extrêmement éloignées des centres de pouvoir administratif, économique, mais certainement pas dépourvues de très grandes richesses. Les auteurs expliquent en détail comment la triple frontière entre Brésil, Colombie et Venezuela est le seul endroit au monde à receler des tepuis, sont des hauts plateaux avec des minéraux comprenant de l'or, du diamant. Quant au triangle entre le Brésil, le Pérou et la Colombie, il comporte des bois précieux tels que l'acajou et le cèdre, susceptibles d'intéresser beaucoup de monde. Mais ces régions restent quand même protégées par leur caractère physiquement inaccessible, ce qui n'a pas empêché durant plus de 20 ans que le narcotrafic usent de leurs artères fluviales afin d'acheminer de la cocaïne produite en Colombie et au Pérou vers le Brésil. L'accès majeur un Sud-Américain vers les marchés internationaux. Les experts de l'Institut Igarapé expliquent que toute cette infrastructure criminelle s'est malgré tout peu à peu mise au service de l'exploitation minière illégale et du trafic de bois. Sachant que par ailleurs, une partie de la guérilla colombienne s'est réfugiée dans cette lointaine frontière, rejointe par des recrues en provenance du Venezuela actuellement, avec des coûts humains et environnementaux extrêmement lourds.
Et pour terminer, Benaouda, vous nous emmenez dans le Somaliland, qui est au centre des tensions croissantes dans la Corne de l'Afrique.
Oui, le 1er janvier, les autorités du Somaliland, c'est une entité séparatiste, un territoire au nord de la Somalie. Ces autorités-là ont octroyé à l'Éthiopie un accès maritime en crédit bail, en leasing, une petite portion de territoire souverain susceptible d'abriter un futur port extérieur éthiopien donnant sur le golfe d'Aden, soit vers l'océan Indien, soit vers la mer Rouge. Ce qui, sur le papier, faciliterait très grandement les échanges commerciaux de l'Éthiopie et de ses 100 millions d'habitants qui aspirent au rang d'économie émergente. Mogadiscio a qualifié ce protocole d'accord entre Addis Abeba et les autorités du Somaliland de nul et non avenu. L'Égypte a apporté son soutien plein et entier à l'État somalien qui parle d'une agression éthiopienne. Le chercheur danois Jethro Norman de l'Institut d'études internationales de Copenhague explique comment le Somaliland, autrefois oasis de stabilité et de sécurité, je cite, est à présent au cœur d'un risque de guerre à la fois intérieure et régionale. Il considère que seule une clarification de son statut permettra de trouver une solution de long terme. Mais pour l'Éthiopie, cette incertitude représente bien une occasion à saisir. Le pays a perdu sa façade maritime en 1993 avec l'accession à l'indépendance de l'Érythrée. Addis Abeba règle depuis plus de 1 milliard de dollars par an à Djibouti pour pouvoir accéder à l'océan. Mais à présent, une crise de la dette souveraine limite les moyens éthiopiens, d'où cette volonté de se passer du port de Djibouti et de bifurquer vers l'est, vers le Somaliland voisin, à coût moindre. Mais l'enjeu ne concerne pas seulement les Africains du Caire jusqu'à Mogadiscio. Il y a aussi un facteur émirati. L'auteur écrit que les Émirats Arabes Unis sont largement considérés comme soutenant l'accord de crédit bail du Somaliland, car le pays du Golfe Persique escompterait, en appuyant l'Éthiopie, étendre sa propre influence en mer Rouge, dont l'actualité nous rappelle combien elle reste cruciale dans les flux commerciaux internationaux entre l'Asie et l'Europe. Et pour l'auteur, le meilleur calcul, en fait, serait de profiter de l'élection présidentielle programmée pour le mois de novembre au Somaliland, afin de dégager enfin une solution qui convienne à tous, si possible avec une médiation africaine.
Merci beaucoup, Benaouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ?
Un petit livre assez amusant, Tapis rouge et lutte des classes, qui nous explique comment est né le festival de Cannes. Les fascistes et les nazis ont pris la main sur le festival de Venise, et donc la France a dit « faut qu'on crée un festival qui soit voilà, une alternative au nazisme et au fascisme ». Et donc, évidemment, 39, il n'a pas pu avoir lieu. Mais dès la fin de la guerre, le livre met en avant comment les ouvriers du bâtiment, de la métallurgie, les cheminots ont réussi à construire en un temps record le palais des festivals. Évidemment, Bataille du Rail, c'est le premier film primé qui héroïse la résistance des cheminots. Et on apprend aussi que les draps, les tentures du premier palais de festival ont été cousues à la main dans les locaux du Parti communiste à Cannes pour pouvoir pour que le palais soit prêt. Voilà, un petit peu une mise en avant des gens d'en bas qui permettent à ces stars surpayées d'être présentes au plus beau festival de cinéma du monde.
Surpayé, il peut pas s'en empêcher.
Ah oui, oui, oui.
Oh
oui.
Là.
Il va pas tarder nous
dire. La lutte des classes, même au cinéma.
Que ces stars ne paient pas assez d'impôts. Il va pas tarder à nous dire.
C'est évident, ça va de soi. Jean-Marc Daniel.
Certaines veulent payer des impôts. C'est ça qui change aujourd'hui, Jean-Marc. Oui, il y a des milliardaires qui veulent qui payer paye, des impôts. Paye.
Et donc, moi, c'est la dernière revue, c'est le dernier numéro de la revue Commentaire. Il y a en particulier, c'est le numéro 185, il y a dans ce numéro un article de Jacques Delarosière sur la politique monétaire qui me confirme que vraiment Jacques Delarosière est un esprit remarquable. Donc, rien que pour cet article, je vous recommande la revue Commentaires, numéro 185.
Jean-Marc, à genoux devant l'hôtel, comme d'habitude, avec Jacques Delarosière.
Oui, mais certains méritent d'être plus vénérés que d'autres.
Et oui, absolument. Il y a des hôtels qui sont légitimes.
Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture.